Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 cube radio.
1-877-827-2346.
On continue donc notre série estivale des députés marquants qui quittent la vie politique cette année, qui ne se représenteront pas lors des prochaines élections provinciales. Et aujourd'hui, on reçoit Lise Thériault, députée d'Anjou Louis Riel, à tout le moins jusqu'au 3 octobre prochain pour le Parti libéral du Québec. Bonjour, Madame Thériault.
Bonjour.
Donc, c'est votre, vous êtes dans vos dernières semaines à titre de députée. Est-ce que ça vous manque déjà?
Ben, je peux pas dire que ça manque déjà. C'est sûr qu'après 20 ans de vie politique, alors que ça fait déjà presque un an que j'ai annoncé mon retrait de la vie politique, je peux dire que j'ai eu le temps de bien me préparer, me minder, comme on dit, enfin, en bon québécois, au fait que dans un peu moins de 2 mois, ben, je serai plus députée d'Anjou Louis Riel.
Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette décision? Parce que on peut pas mettre 20 ans de vie politique derrière nous aussi facilement.
Ben, je vous dirais, la principale raison, c'est la vie. Vous savez, à cette occasion, j'ai choisi la population, j'ai choisi de servir mes concitoyens. Puis à la 8e fois, ben, je me suis dit peut-être qu'il serait temps que je me choisisse. Et alentour de moi, ben, c'est sûr que quand tu prends de l'âge, que tu vois tes amis être touchés par la maladie ou par la mortalité, tu dis, ben là, peut-être qu'il faudrait que j'en profite avant que je sois plus capable de le faire. Puis honnêtement, ça a été vraiment la seule motivation en me disant, bon, ben, j'en ai gagné 7, là, je pense que pour la 8e, je vais passer mon tour.
Vous avez été ministre. Oui, c'est ça. Vous avez été ministre du Travail sous le gouvernement Charest. On se rappelle le bras de fer que vous avez tenu pour éliminer le placement syndical dans les chantiers de construction. Est-ce que c'est une période qui vous a fait peur de la vie publique?
Ben, ça m'a pas fait peur, mais c'est vrai que ça a été une période qui était assez rock'n'roll. C'est évident, j'ai eu des menaces de mort. On a augmenté ma sécurité. À un certain moment donné, j'avais 2 gardes du corps. Ça brassait sur les chantiers. Je pense que j'avais beaucoup plus peur pour les travailleurs de la construction qu'on sortait carrément, qu'on battait. Il y avait un travailleur qui était dans le port de Trois-Rivières, dans l'eau, et on a coupé l'alimentation au moment où il était dans l'eau, donc ce qui a coupé l'acheminement d'air, évidemment. Donc, c'est sûr que c'était pas évident. Par contre, je dois vous dire que moi, quand on fait de l'intimidation, je fais pas 5 et 8, je suis rendue que j'en fais 7 et 2, puis c'est pas comme ça qu'on est capable de changer les choses. Fait que ça n'a fait que renforcer ma détermination et renforcer la détermination du gouvernement d'aller de l'avant.
Il y a eu votre passage également sous le gouvernement Couillard comme ministre de la Sécurité publique et vous étiez vice-première ministre également au début du mandat de Philippe Couillard. On se rappelle d'un moment très émotif, celui de la... il y a eu une fuite finalement de la prison d'Orsainville. Comment vous voyez ce moment-là de votre vie en politique avec du recul?
Ben, je vous dirais que c'est sûr qu'une évasion de quelqu'un qui part d'une prison, c'est comme pas évident, c'est pas courant non plus. Moi, je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire. J'ai mandaté quelqu'un pour faire la lumière sur toutes les évasions, savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire, parce qu'il faut se rappeler que quelques mois auparavant, c'était arrivé sous le Parti québécois, si je ne me trompe pas. Fait que c'est sûr que oui, je pense qu'on a amélioré les processus. Puis vous savez, le ministre, oui, c'est le personnage politique qui va décider ou qui va donner les grandes orientations. Mais c'est sûr que je pense qu'avec chaque rôle de ministre, on apprend, on va de l'avant. Puis je vais dire, comme je dis, quand tu apprends qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, on ne savait pas avant que ça fonctionnait pas.
Non.
Là, ça fonctionne pas. Ben, c'est là qu'il faut faire les changements. Puis c'est là qu'il faut avoir le courage de prendre les décisions. Puis de dire, ben, on va faire rapport. Voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on va changer. Puis après ça, d'aller convaincre les collègues au Conseil des ministres de mettre l'argent pour le faire. Donc, moi, je pense que chaque expérience qu'on a eue dans notre vie de ministre, qu'elle a été bonne ou moins bonne, ça nous force à être une meilleure personne, à aller de l'avant, prendre les meilleures décisions.
D'ailleurs, dans votre vie politique au cours des 20 dernières années, il y a eu des moments assez, tu sais, on a parlé de la fin du placement syndical, on a parlé de l'évasion d'Orsainville. Plus récemment, il y a eu un autre moment, je vous dirais, important dans votre vie politique, c'était celui sur votre sortie à propos de Jean Charest.
Oui.
Et on vous a senti très émotive. Qu'est-ce qui a justifié cette émotivité-là?
Ben, moi, je suis une fille de justice sociale. Que tu sais, la game politique, là, où les gens vont être prêts à descendre dans le caniveau pour salir les réputations des autres, moi, ça m'écœure. Puis ça venait du monde qui, en plus de ça, avait absolument aucune leçon à donner à n'importe quel politicien de ma formation politique. Moi, à force de me faire traiter de voleur, de bandit, quand c'est pas vrai, là, à un moment donné, la coupe a débordé. Puis à ce moment-là, pour de vrai, là, écoute, là, le chef du PQ qui est en chambre, il a été reconnu inhabile à siéger par la commission des affaires municipales parce qu'il a réclamé des dépenses qu'il n'aurait pas dû. Ça, c'est une... T'es coupable, comprenez? Là, l'autre qui a embelli son CV, Éric Kerr pour la CAQ, hey, si c'est pas avoir maquillé quelque chose, c'est grave, ça, t'as falsifié un document pour une course à la chefferie, puis ce beau monde-là se permet de faire la morale sur Jean Charest, alors que Jean Charest, puis je vais faire une comparaison, Guy Ouellet, de la manière dont l'UPAC a traité son dossier, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment... Il a été freiné en bon canadien français. Ben, on peut se poser la même question sur Jean Charest. Moi, je vis encore dans une société de droit et on ne peut pas rendre le monde coupable sur la place publique quand on n'a absolument aucune preuve et aucune accusation. Fait à partir du moment où c'est peut-être bien le fun de casser du sucre sur le dos de Jean Charest, moi, là, j'ai été ministre de Jean Charest. Et à chaque fois qu'on va dire, ah, les libéraux sont des corrompus, savez-vous quoi? Je serai toujours prête à sortir pour dire, c'est pas vrai. Puis avant de parler de notre formation politique, voulez-vous vous regarder? Ça, je pense que c'est juste correct. Puis évidemment, ben, tu sais, je pense qu'il y a des manières différentes de faire de la politique. Puis quand on dit quelque chose, on peut s'assurer que ce soit, que ça repose sur des vrais faits et non pas sur des vous dire puis des peut-être que. Puis ça, ben c'est sûr qu'à un moment donné, ça passe plus. Puis
on voit que ça vient encore vous chercher.
ben c'est parce que, vous savez, quand on décide de faire de la politique, là, moi j'ai passé 20 ans à faire de la vie politique, là, ma passion, je me suis lancée là-dedans. Et la seule chose qui me reste quand je sors de la vie politique, c'est ma réputation. C'est ma réputation, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai accompli. Puis quand je vois des gens qui dénigre sciemment un adversaire politique, ben, je trouve que trop, c'est comme pas assez. Fait que je pense que les chefs des autres formations politiques, ils ont compris qu'ils pouvaient garder une petite gêne.
Il y a 6 jours, vous avez co-signé une lettre ouverte avec plusieurs autres femmes, donc plusieurs de vos collègues provinciales, Christine Saint-Pierre, Kathleen Vell notamment, pour dire que Jean Charest est un allié des femmes. Et ça s'inscrit dans la course conservatrice au leadership au fédéral. Madame Thériault, est-ce que vous seriez tentée éventuellement de rejoindre un Jean Charest si jamais il était élu chef du Parti conservateur du Canada?
Honnêtement, comme députée fédérale, pas du tout, parce que la vie politique, tire un trait. Puis c'est comme j'ai 2 heures de route à faire pour me rendre à Québec ou 2 heures de route pour me rendre à Ottawa. Tu pars pas de Québec pour te rendre à Ottawa. Je suis pas rendue là, vraiment, mais pas du tout. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ça fait pas partie de mes différentes options qui sont sur la table, mais pas du tout, du tout, du tout. J'apprécie M. Charest. Mais moi, je sais que M. Charest, lorsqu'il a décidé que le Conseil des ministres serait paritaire, quand on a travaillé pour que les conseils d'administration des sociétés d'État soient composés à 50% de membres féminins, quand on a travaillé si fort pour avoir plus que 50% de femmes qui ont réussi à accéder à la fonction des juges, ben je me dis, oui, lui, il a vraiment fait avancer la cause des femmes et il croit aux femmes. Vous savez, Yasmine, moi, là, j'ai toujours pensé là que les femmes vont être capables d'avancer parce qu'il y a des hommes qui vont se battre pour elles et avec elles, à leur côté. Et M. Charest fait partie de ce type d'homme-là. Les propos de Pierre Poilievre sont inquiétants. C'est du Trumpisme quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis, quand je regarde qu'on pourrait remettre en cause le droit à l'avortement des femmes et que si je pense que mes petits-enfants pourraient avoir moins de droits que moi j'en ai eu, honnêtement, je pense que M. Charest, il est au bon endroit. Puis moi, j'ai appuyé l'homme politique qui, d'après moi, pourrait faire le meilleur chef.
Madame Thériault,
et le premier ministre.
Le oui. 4 octobre prochain, pour conclure, quels sont vos plans lorsque vous ne serez plus officiellement députée d'Anjou-Louis Riel? Qu'est-ce que vous allez faire?
Ben, je vous dirais, pour commencer, on va passer la balle là, à la prochaine députée, parce que j'espère bien que ce sera une femme dans mon comté. Il y a un transfert de dossier, un transfert de bureau, pour vraiment pouvoir dire, ben, on tourne la page. Puis après ça, là, un long et bon repos bien mérité, parce qu'effectivement, c'est sûr que pour se rendre là, il y a encore des activités à faire dans mon comté. J'en ai cette semaine, j'en aurai la semaine prochaine, je vais en avoir tout au mois de septembre aussi. Donc, c'est sûr que la première chose, c'est on se repose, on va fermer la piscine, on va enlever les plantes du jardin. Puis on va regarder, bon, cet hiver, est-ce que le soleil et la chaleur du sud de martyriront? Sans probablement également.
Ben, Madame Thériault, on vous souhaite une bonne vie d'après-politique et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Ça m'a fait plaisir, Yasmine. Bonne journée.
Bonne journée.